Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, cinquième cassette, deuxième face, page 170. Il survolait des marais à 100 mètres d'altitude à peine, à cause du mauvais temps et de l'obscurité. Consultant sa montre, il constata qu'il aurait déjà dû être arrivé. Il survolait des contrées d'une monotonie désespérante. De la mince couche de neige, pointaient des rameaux et des branches qui semblaient vouloir respirer un peu encore. Un sillon noir creusé sur un marais lui indiqua enfin qu'il était parvenu à destination. Le Northman était dans un bel état. Les flotteurs arrachés gisaient en miettes à quelques centaines de mètres de l'avion. L'appareil renversé avait eu les ailes brisées et la carlingue était à moitié consumée par le feu. Le tout fumait encore faiblement. John atterrit, terriblement inquiet. Le Piper Cub sautait et s'immobilisa à côté de l'épave. John sauta à terre et courut auprès des débris. Il poussa un soupir de soulagement dans l'avion. Des traces montraient qu'il avait été projeté hors de la carlingue et avait échoué dans un bosquet de petits sapins. Il avait dû recevoir un gros choc car il n'était pas retourné vers l'avion. Ses traces partaient vers le sud. Il avait marché en titubant et s'était même effondré de temps en temps. Des taches rouges sur la neige indiquaient qu'il n'était pas sorti indemne de son atterrissage forcé. Il faisait presque nuit et la neige tombait drue. John prit son sac à dos qui contenait des vivres et des pansements et partit son fusil en bandoulière et une lampe accrochée sur le bâton qui lui servait de canne. Essayer de repérer Alan avec le Piper Cub était inutile. Il faisait maintenant beaucoup trop sombre et il n'était plus question de voler jusqu'au lendemain matin. Avant de quitter le Piper, il appela McGrath et raconta ce qu'il venait de découvrir. Il marchait avec difficulté. Les flocons de neige lui frappaient le visage comme des pattes mouillées. Il dut allumer sa lampe pour pouvoir suivre les traces déjà à moitié effacées. Si la neige tombait ainsi, il ne resterait bientôt plus de traces. Il s'étonnait qu'Alan ait eu la force d'aller aussi loin. Il s'attendait à le retrouver après une marche d'une demi-heure. Au bout de 2 heures, il ne le voyait toujours pas. Pourtant, des traces très nettes révélaient qu'il ne pouvait plus se trouver très loin. Bien que marchant dans une obscurité totale, Alan avait maintenu sa direction première avec une précision étonnante. Le plus étrange était qu'il n'eût pas heurté un arbre ou un buisson. John se rappelait avoir vu un somnambule se promener avec la même assurance. Alan ne devait même pas se rendre compte qu'il marchait. Le choc devait le maintenir dans un état d'inconscience, tandis que son corps gardait instinctivement son activité. La neige avait presque cessé de tomber et John peinait dans sa grosse combinaison. Il en ouvrit la fermeture éclair. De temps en temps, il jetait un coup d'œil sur sa boussole pour contrôler sa direction. Toujours droit vers le sud. Le terrain montait peu à peu et John se rappela avoir aperçu de son avion une sorte de pyramide. C'était le mont Farewell, F-A-R-E-W-E-2-L, un pin de sucre d'environ 1000 mètres qui pointait comme un phare au milieu de cette immense contrée marécageuse. Il l'avait déjà vu plusieurs fois et il lui avait servi de point de repère. Il changea la pile de sa lampe de poche, mangea un morceau de chocolat et continua. Alan n'aurait pas dû se diriger vers cette montagne. Elle était dangereuse avec ses précipices et ses parois abruptes. De plus, on la disait infestée de loups. Highland lui avait raconté avoir vu une bande de 30 loups sur un de ses versants. Quand les caribous sont très nombreux, les loups poussent les bêtes affolées vers les précipices et se régalent ensuite de leurs cadavres. Des aiguilles de glace lui piquaient le visage. Il était maintenant bien au-dessus de la limite des arbres et le vent soufflait plus fort. Le triangle de lumière de sa lampe de poche semblait flairer les traces d'Alan comme l'eût fait un chien de chasse. L'obscurité l'entourait comme une épaisse bouillie. Brusquement, il sursauta. Sa lampe de poche lui montrait à côté des traces d'Alan des traces de loups, de grandes soles calleuses avec des griffes. Elles étaient nombreuses et leur succession formait un véritable sentier dans la neige. John prit son fusil et l'arma. Après cette marche pénible, son cœur battait comme un tambour. Alan ne pouvait plus être loin maintenant. Et les loups non plus. Un hurlement sinistre coupa le silence impressionnant de la montagne. Le ton montait, s'enflait, cessait brusquement et recommençait. Des voix de plus en plus nombreuses se mêlaient au concert. Cette musique angoissante semblait être l'hymne même de ce pays perdu. Une musique sauvage, cruelle, impitoyable. Une musique sifflée entre des dents pointues et léchées par des langues rêches. Le fusil dans une main et la lampe de poche dans l'autre, John avançait en courant sur la piste. La montée était de plus en plus raide et ses poumons travaillaient comme des soufflets de forge. Il constata que les traces suivaient le bord d'un précipice. Peut-être courait-il sur un sol mouvant. La neige risquait de céder sous ses pieds et de l'entraîner dans l'abîme. Il essaya de ne plus penser et décupla ses efforts. Alan ne pouvait plus être loin s'il était avec les loups. Soudain, la lumière frappa le dos ébouriffé d'un fauve, fila un peu plus loin et rencontra un visage hébété et ensanglanté. C'était Alan. Il était assis sur une pierre, recroquevillé, le regard vide. Devant lui, six loups prêts à bondir. Alan n'en avait certainement pas conscience. Ses vêtements pendaient en lambeaux et ses cheveux étaient collés par le sang coagulé. John n'hésita pas une seconde. Serrant sa lampe de poche entre ses genoux, il braqua la lumière et leva son fusil. Deux coups de feu rapprochés claquèrent. Le loup de gauche fit un bond en l'air et tomba dans le ravin. Les autres s'éparpillèrent comme des ombres grises et disparurent dans la nuit. John se précipita vers Alan. « Comment vas-tu, mon vieux ? Tu me reconnais pas ? C'est John ! John, ton copain !» L'air rêveur, Alan passa sa main sur son front ensanglanté, comme s'il faisait un effort pour se souvenir. Mais son regard ne trahissait aucune émotion. Il marmotta des paroles sans suite et se mit à secouer la tête. Il avait complètement perdu le contact avec le monde extérieur. John le pensa en silence. La tête avait encaissé le choc le plus rude. Les bras et les épaules portaient aussi des brûlures et de larges écorchures. John utilisa toute la boîte de pansements et quand il eut terminé, il prit doucement Alan par le bras gauche. « Viens, Alan, viens, nous partons. Il ne faut pas rester ici. Nous allons retourner à McGrath. Dès qu'il fera jour, nous prendrons l'avion. Tout s'arrangera, tu vas voir. Veux-tu quelque chose ? » Il lui tendit un morceau de chocolat, mais sans succès. Lentement, ils commencèrent la descente. John suivait les traces et essayait de ne pas penser au précipice. La neige ne tombait plus et quelques étoiles brillaient entre les nuages. Le vent qui avait tourné au nord-ouest mordait la peau. John enleva la chemise de laine qu'il portait sous sa combinaison et enveloppa doucement la tête d'Alan. Ils n'avaient pas marché depuis très longtemps quand ils entendirent de nouveau les loups. Mais cette fois, ils ne hurlaient pas. Ils glapissaient comme une meute de chiens. John s'arrêta. La lampe de poche clignotait de façon inquiétante. La pile était très faible. Il l'éteignit pour voir s'il pourrait habituer ses yeux à l'obscurité. Il mit un certain temps, mais bientôt il put distinguer les loups comme des points noirs sur la neige blanche. Il lâcha Alan, visa au jugé et tira un coup au petit bonheur. Raté, mais les points noirs reculèrent tout de même un peu. Il ralluma la lampe et continua sa pénible marche. Il fallait atteindre la forêt avant que la petite lueur ne s'éteignît. S'il pouvait ramasser du bois et faire du feu, il serait sauvé. Mais ici, sans lumière, sur la montagne dénudée, ils étaient perdus. Les loups approchaient. Ils se glissaient derrière eux et passaient comme des reptiles velus au-dessus des amas de neige. Ils glapissaient et aboyaient. John essaya de les compter. Il alla jusqu'à 12, mais il y en avait certainement davantage. Sa lampe de poche clignota de nouveau. Puis la lumière augmenta de façon anormale pour ensuite mourir tout doucement. Il ne restait plus qu'un fil rougeoyant au milieu de l'ampoule. L'obscurité se referma bientôt sur eux comme une pince noire. John secoua la lampe, mais la pile usée ne pouvait plus rien donner. Il fit encore quelques pas puis s'arrêta. L'obscurité était trop épaisse. On ne voyait plus les traces. Et tout près d'eux, le précipice les guettait. Serrant le bras d'Alan, il le fit asseoir, le dos contre un tas de neige durci. Il tendit l'oreille et perçut, tout près, la respiration haletante des fauves aux aguets. Peu à peu, il les distinguait. Couchés sur le ventre, ils formaient un demi-cercle qui se resserrait lentement autour d'eux. Il leva son fusil et attendit. Il lui semblait presque les sentir se rapprocher, mais il n'en était pas sûr. Les yeux sont de bien mauvais témoins en pareil cas. Alan poussa un gros soupir. Il était recroquevillé, la tête dans ses mains. John lui parla, mais il ne répondit pas. Il était toujours dans une heureuse ignorance du danger qui les entourait. Le silence s'épaississait. Dans le lointain, on entendit le hurlement plaintif d'un loup qui demeura sans réponse. Brusquement, un faisceau de lumière verte monta dans le ciel. Un second le suivit et quelques secondes après, d'autres encore. Les faisceaux lumineux changeaient de couleur et d'intensité, disparaissaient et revenaient. Ils se mirent à danser en rond comme une centaine de projecteurs. Le vert, le rouge, le violet dominaient. Tantôt les couleurs dessinaient des arcs-en-ciel, tantôt elles se réunissaient pour un garde-à-vous impeccable. Elles se dressaient alors comme les colonnes lumineuses d'un temple céleste. L'aurore boréale est un phénomène fréquent au mois d'octobre en Alaska. Le paysage entier était éclairé. Les loups furent troublés et dressèrent l'oreille. Leurs silhouettes se détachaient sur la neige comme découpées au couteau. Lentement, tels des soldats obéissant à un mot d'ordre, ils levèrent le nez vers le ciel et se mirent à hurler. Ils n'exprimaient ni la faim ni la colère, mais la langueur et la tristesse. C'était une musique à fendre le cœur, des notes qui exprimaient à la fois une douleur profonde et la solitude du monde. John prit Alan par les poignets et l'aida à se relever. L'aurore boréale leur donnait assez de lumière pour suivre de nouveau les traces. Les loups restaient comme pétrifiés, émus par leur propre musique. Les deux hommes se hâtèrent, pliés en deux, vers la ligne noire qui marquait la limite des arbres. Mais tout à coup, comme si on avait tourné un bouton électrique, l'aurore boréale s'éteignit. Il faisait de nouveau noir, et deux fois plus noir après cette fête de la lumière. Le concert fut coupé net lui aussi, et les glapissements recommencèrent. Les ombres affamées avançaient sur la neige. John s'accroupit et serra Alan contre lui. Le demi-cercle de loups se reforma autour d'eux, mais cette fois il semblait encore plus étroit. John serrait son fusil et fixait le paysage. Ses yeux lui faisaient mal. Il avait l'impression que ce décor désertique tout entier haletait et n'était fait que de lampes pendantes. Une ombre, plus grande que les autres, approchait lentement. Bientôt, elle fut si proche que John put voir distinctement le renflement de la queue. Il épaula son fusil et visa avec soin. Quand son coup partit, il savait qu'il n'allait pas rater la bête. Le loup poussa un hurlement tout à fait différent de ceux qu'il avait entendus jusqu'alors. Il bondit en arrière et tomba sur le dos. Quelques brèves convulsions secouèrent son corps, qui bientôt ne bougea plus. Il était mort. Le silence fut de courte durée. Les ombres se jetèrent sur le mort. Le festin fut violent et brutal. On entendait craquer les os. Les deux hommes repartirent, marchant aussi vite que possible. John, habitué à l'obscurité, devinait les traces qui se profilaient comme des rainures sur la neige. Alan suivait comme un somnambule. Sa tête penchait mollement sur le côté. John était impressionné. Il ressentait une inquiétude croissante pour son ami. Ils arrivèrent à la limite des arbres au moment où les loups reprenaient leur poursuite. John trouva un vieux sapin sec couché sur le sol. Il gratta un peu le lichen, ramassa quelques brindilles et les alluma. Un joyeux feu de camp crépita bientôt à la lisière de la forêt. On voyait les yeux des loups briller dans la nuit comme des lucioles. John prépara un lit de branchage pour Alan et le coucha aussi près du feu que possible. Le pilote blessé s'endormit aussitôt d'un sommeil paisible et profond. John veillait à son chevet, le fusil sur les genoux. De temps en temps, il jetait de nouvelles branches dans le feu. Chaque fois que les flammes reprenaient, il distinguait le mur de loups qui reculait. Mais il guettait toujours leur proie. Leur patience ne connaissait pas de limite. Ce sont les bêtes les plus affamées de ces contrées désertiques. Leur vie entière n'est qu'une chasse, une poursuite de la proie dans laquelle ils pourront enfin planter leur croc. Quand l'aube se leva, les fauves disparurent. La nuit est pour eux l'heure de la chasse au gros gibier. Pendant la journée, ils se contentent d'un rat, d'un lièvre ou d'une gelinotte. Ils savent que la lumière du jour est néfaste à leur méthode de chasse, et dès que le soleil apparaît, ils évitent l'homme. Alan fut réveillé par les premiers rayons de soleil. Il était de nouveau lui-même, mais il avait mal à la tête. Il ne gardait aucun souvenir de ce qui s'était passé depuis son atterrissage forcé. Lorsque John lui parla des loups, il le crut à peine et n'en fut convaincu qu'en voyant leurs traces dans la neige. Ils retournèrent lentement vers le Piper Cub. Alan avait l'impression que sa tête allait éclater. John voulut le conduire directement à l'hôpital d'Anchorage. « Pouf ! Sornette !» siffla Alan. « Une commotion cérébrale, je sais ce que c'est. Ça passe avec du café fort. » La discussion s'arrêta là. John appela McGrath pour raconter les événements de la nuit. Hassel mit aussitôt la grande cafetière sur le feu. « Va falloir fêter ça tout de même, » dit-il. Quand ils atterrirent sur la piste numéro 1, William vint leur dire bonjour. John arrêta le Piper Cub, descendit et donna une poignée de morceaux de sucre à l'élan. Celui-ci, très grand seigneur, les avala et frotta son museau sur la nuque de John pour le remercier. Il y avait un grand rassemblement devant les baraques. Joseph Grumman brillait comme un soleil, il avait peigné sa barbe en l'honneur de ce grand jour. Aylan portait son costume esquimau et Hassel s'était rasé. Son visage, constellé de sparadrap, témoignait des difficultés qu'il avait dû rencontrer. Nell Swanberg était revenu lui aussi. Il portait autour de la tête et des épaules de superbes pansements qui étaient encore d'une blancheur immaculée. Il parlait beaucoup de ses charmantes infirmières, disant qu'il était prêt à lutter à nouveau avec un ours s'il était sûr de retourner dans le même hôpital. Après 10 tasses de café, Alan se sentit de nouveau en forme. Il voulut sur le champ monter dans un avion. Mais Joseph Grumman l'envoya se coucher et lui jura de lui couper la tête s'il osait mettre le nez dehors avant 8 jours. Après avoir bu le café, servi avec des petits pains au lait, John prit Hassel à part. « As-tu envoyé le télégramme ?» demanda-t-il, une expression anxieuse sur le visage. Hassel prit un air innocent. « Naturellement, c'est toi qui l'as voulu, » dit-il. « Et puis c'était hier le dernier jour pour ton inscription. » John donna un grand coup dans le mur le plus proche et serra les dents, faisant saillir les muscles de ses mâchoires comme des balles de golf. Un éclat de rire tonitruant de Joseph Grumman lui fit tourner la tête. « Ha ha ! Mais mon cher John, crois-tu vraiment que Hassel soit assez mauvais télégraphiste pour faire partir de McGrath un télégramme aussi idiot ? Je vais te dire la vérité. Nous l'avons jeté au panier. » Y avait-il autre chose à faire, John ? Le visage de John, tout d'abord étonné, hébété, reflétait maintenant une joie délirante. Il serra son oncle dans ses bras et cogna son front contre le sien à en faire trembler la baraque. « Ah, tu es magnifique, mon oncle !» dit-il en riant. « Il n'y a pas au monde un homme aussi sage que toi. Il n'y a pas non plus sur cette terre un pays comme l'Alaska. Quel est le prochain vol inscrit à notre programme ?» Un vol au-dessus de l'océan glacial arctique, John, répondit l'oncle en souriant. Cet hiver, nous allons nous joindre à une expédition arctique près de Point Barrow, P-O-I-N-T, plus loin, B-A-2-R-O-W. C'est le point le plus septentrional de l'Alaska. Tous nos appareils vont s'y rendre. Tu vas voir ce que tu vas voir. John poussa un cri de guerre et bondit dehors au soleil. Le mont McKinley se dressait dans le lointain. John salua militairement sa blancheur étincelante et courut comme un écolier, fou de joie, vers le Piper Cub pour décharger les sacs et le fusil. L'histoire est finie. Voici maintenant quelques renseignements sur l'Alaska. Si tu cherches l'Alaska sur la carte, tu verras qu'il se trouve dans l'angle nord-ouest du continent américain, à quelques kilomètres seulement de la Sibérie. Alaska est un mot indien qui veut dire « grand pays ». L'Alaska a environ 3 fois la superficie de la France et il est 100 fois moins peuplé. 500 000 habitants seulement, dont environ 75 000 Esquimaux et Peaux-Rouges. Il reste donc beaucoup de place pour celui qui a envie de s'y installer. La plus grande partie de l'Alaska est couverte de montagnes et de toundra. Son sol reste gelé toute l'année. Le point le plus septentrional, Point Barrow, est à la même latitude que le Cap Nord en Norvège. Le point le plus méridional est à la même latitude qu'Amsterdam. Le climat varie en conséquence. Tout au nord, l'été ne dure que quelques semaines et la neige a juste le temps de fondre avant qu'une nouvelle couche ne recouvre le sol. Dans le sud, le temps est humide et pluvieux à longueur d'année, avec des hivers relativement doux et des étés tempérés. Le climat du centre de l'Alaska, où se passe ce roman, est à peu près celui de la Suède septentrionale. Les hivers sont toutefois un peu plus froids. On a enregistré plus de 60 degrés au-dessous de zéro dans la région à l'est du Yukon. Par contre, il peut régner en été des chaleurs exceptionnelles. À Fairbanks, au centre du pays, on a enregistré 33 degrés à l'ombre un jour d'été. Mais cela n'a duré qu'une journée. L'Alaska appartient aux États-Unis qui l'ont acheté à la Russie en 1867 pour la somme ridicule de 7 millions de dollars. À cette époque, le pays était habité uniquement par des trappeurs et personne ne se doutait que son sol renfermait de l'or. Ce fut seulement vers 1890 que les recherches commencèrent vraiment. Pour trouver de l'or, des milliers d'hommes affluèrent de tous les coins. Ceux qui résistaient au climat perdaient vite les quelques grains d'or qu'ils avaient péniblement amassés. En général, les Scandinaves s'adaptaient assez bien, et des vieux durs de cette époque, Suédois, Norvégiens, Danois ou Finlandais, vivent encore en Alaska comme des patriarches, ou plutôt vivaient encore au moment où ce livre a été écrit, vers 1960. La ruée vers l'or, cette fameuse ruée vers l'or, a duré environ une vingtaine d'années, de 1890 à 1910. On trouve encore de l'or en Alaska, mais beaucoup moins qu'autrefois. La plus grande partie est recueillie avec les gold dredges, sorte de dragues qui pèsent parfois jusqu'à 5 ou 6 000 tonnes. Et il reste toutefois encore quelques chercheurs d'or de la bonne vieille espèce. Avec un peu de chance, on peut les rencontrer au bord d'un fleuve, où à l'aide d'un tamis rouillé, il lave les petits grains d'or brillants. De nos jours, d'autres métaux ont pris la place de l'or. Tout d'abord l'uranium, qui sert surtout pour le moment à produire des bombes atomiques. On trouve également du plomb et du cuivre, mais les difficultés de transport empêchent leur exploitation sur une grande échelle. Depuis une douzaine d'années, on y exploite du pétrole. Le pays a évolué depuis la fin de la guerre avec une rapidité vertigineuse et les moyens de communication n'ont pas eu le temps de suivre. Il n'existe qu'une seule ligne de chemin de fer importante. Elle relie Fairbanks à Anchorage. Il y a aussi quelques grandes routes dans la partie est du pays. Voilà pourquoi l'aviation a pris une énorme extension et voilà pourquoi il existe des pilotes de brousse dans presque tous les villages d'Alaska. Leurs appareils ont remplacé les anciens traîneaux à chiens et les canoës. Mais l'Alaska ne sera jamais entièrement civilisé. Les distances y sont trop grandes, le climat trop rude. Le véritable habitant de l'Alaska, quelle que soit son origine, est un homme libre qui sait reconnaître les vraies valeurs de l'existence. Il a le sens de l'humour, il est serviable jusqu'à l'absurde. Le climat lui a peut-être donné un aspect fruste, mais sous des dehors grossiers, bat un cœur plus pur qu'une paillette d'or ramassée sur les rives du puissant fleuve Yukon. Tu seras sans doute intéressé en apprenant que les événements décrits dans ce livre sont presque tous tirés de faits et d'événements réels. L'élan William de McGrath, par exemple, a un sosie sur un terrain d'aviation du pays. Le cortège nuptial qui éteignit l'incendie de forêt a réellement accompli cet exploit dans la contrée de Tanana il y a quelques années. La ville fantôme, Kantishna, existe à l'endroit même où l'auteur l'a placé sur la carte. L'attentat contre la mine d'uranium a été commis avec la même adresse diabolique quelques années auparavant, mais dans une autre région. Le col des pluies est réellement redouté des pilotes et l'étrange décollage en deux temps sur le lac de Kantishna a été réussi par plus d'un pilote de l'Alaska. L'opération à bord de l'avion entre la côte Esquimau et Anchorage est un événement réel, ainsi que l'histoire du grizzly qui s'est réveillé en plein vol et a attaqué le pilote. J'espère que personne ne pensera que le livre perd de sa valeur parce qu'une grande partie du récit s'appuie sur des événements vécus. La réalité en Alaska dépasse bien souvent la fiction la plus audacieuse. Fin de la deuxième piste de cette cinquième et dernière cassette de Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf. J'espère que tu t'es passionné comme moi à ces récits. Au revoir et à bientôt peut-être.